Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice.
Opposer justice et police comme le font certains en permanence, c'est extraordinairement grave pour notre pacte républicain.
Je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Il y a la loi, il y a des amendes, mais pas la peine de mort.
Quand j'entends le mot « violence policière », personnellement, je m'étouffe.
Pour moi, c'est le genre de cas où, fou ou pas fou, elle doit être en prison. Elle ne doit pas être soignée.
Présumée coupable, l'expression, elle vous choque ?
Complètement. Elle me choque totalement. Nous vivons dans un état de droit, ce qui nous permet de vivre en paix.
Plaidoirie, l'émission de Police Justice de Radio Campus Paris, un samedi par mois sur le 93.9.
En France, selon les derniers chiffres, le taux de syndicalisation publique et privée atteint à peine les 10%. C'est 7 fois de moins que dans la police. Dans ce corps de métier, 70% des policiers sont syndiqués. Alors, comment expliquer cette différence ? Pourquoi les syndicats continuent de séduire une majorité de policiers ? Ont-ils, comme certains le dénoncent, trop de pouvoir ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce nouvel épisode de Plaidoirie. Alors, restez avec nous pour tout comprendre. Bienvenue sur Radio Campus Paris.
Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Et avec moi aujourd'hui en studio pour comprendre donc les singularités des syndicats policiers, alors deux chercheurs, d'abord vous, Marion Guenot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc docteur en sciences politiques, aussi professeur, si j'ai bien compris, à l'Université Paris 8.
Chargée de recherche au CNRS.
Chargée de recherche au CNRS. Et vous avez beaucoup travaillé sur la question des syndicats policiers. J'ai notamment vu, par exemple, cet article « Protéger l'État, promouvoir la police, défendre les policiers, les tensions structurantes du syndicalisme dans un domaine régalien » qui a été publié l'année dernière. Avec nous également, cette fois-ci à distance, Benjamin Pabion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également donc docteur en sciences politiques. Vous avez également travaillé sur les syndicats policiers, notamment dans le cadre de votre thèse intitulée « Travail de représentation et rapport aux politiques dans le syndicalisme policier ». Merci à tous les deux d'être avec nous. Peut-être pour commencer cette émission, on peut s'arrêter sur un chiffre, celui que j'ai cité tout à l'heure. Plus de 2/3 des policiers, semble-t-il, seraient donc syndiqués. Est-ce que c'est un chiffre qui n'a aucune commune mesure avec d'autres professions ? Est-ce qu'il y a d'autres professions à l'inverse qui sont avec des taux de syndicalisation similaires ? Est-ce qu'on a des informations là-dessus, Marion Guenot ?
Alors effectivement, la plupart des travaux sur le syndicalisme sont des travaux qui traitent en réalité du déclin de la représentativité du syndicalisme dans le monde du travail. Et effectivement, le taux de syndicalisation des policiers est sans commune mesure avec le reste du monde du travail. Il y a un outil pour vérifier cela, c'est aussi le taux de vote aux élections professionnelles. Et en fait, avec le passage au vote électronique, on s'attendait à ce qu'il y ait une chute du taux de participation. Et en 2018, la police nationale a une fois de plus créé la surprise avec un taux de participation de plus de 80%. Et il y a eu, aux élections suivantes, un taux un peu plus faible, mais on est quand même sur des taux très importants.
Alors, on peut peut-être s'arrêter sur la question de la fonction du syndicat. Généralement, quand on pense syndicat, on pense finalement une institution qui est là pour protéger les personnes syndiquées, notamment par exemple quand elles sont en conflit avec leur hiérarchie. Benjamin Pabion, est-ce que c'est aussi ça le syndicat chez les policiers et notamment chez les gardiens de la paix, ou est-ce que ça a d'autres fonctions ?
Alors, ça a effectivement beaucoup d'autres fonctions. La fonction de protection, de défense des travailleurs, elle est symboliquement extrêmement importante. Elle représente une part non négligeable de l'activité des syndicalistes, mais elle est loin d'être la seule. Les syndicalistes travaillent aussi beaucoup sur de l'accompagnement au-delà des situations de conflit, de l'accompagnement dans les carrières, pour tout ce qui est les questions de mobilité, d'avancement des fonctionnaires. Et il y a aussi une phase du travail syndical qui relève plutôt de ce qu'on va appeler les avantages, avec parfois des syndicats qui se positionnent un petit peu comme l'équivalent d'un CE que n'auraient pas les policiers, pour proposer aussi des avantages très concrets, matériels, aux fonctionnaires de police qui ont besoin aussi d'assistance, que ce soit sur des choses très très simples comme des réductions pour certaines activités, mais aussi sur des problématiques beaucoup plus concrètes comme le logement, sur lesquels les syndicats peuvent intervenir de manière très directe.
Mmh. Oui, sur les logements, peut-être Marion Guénot, on sait que, moi j'ai lu un papier là, avant, pour préparer l'émission, qui a expliqué que notamment beaucoup de policiers qui arrivent en Ile-de-France ont des problématiques de logement. Alors comment ça se passe par exemple sur l'aide concrètement des policiers sur la question du logement? On leur propose des logements, les syndicats leur proposent des logements?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie problématique pour les jeunes gardiens de la paix qui arrivent en Ile-de-France, c'est-à-dire qu'on a une tendance très nette à déraciner des policiers qui viennent de province pour que, dans leurs premières années, ils exercent en Ile-de-France. Et donc, effectivement, les syndicats sont présents. Ils ont des partenariats avec des bailleurs, sociaux ou privés. Et donc, ils proposent directement de faciliter l'accès au logement à ces gardiens de la paix dès la sortie de l'école, ce qui est une source d'attractivité très importante.
Alors sur le déroulement de carrière, vous en avez un peu parlé, Benjamin Pabion, est-ce qu'on peut comprendre concrètement comment ça fonctionne? Est-ce que finalement c'est une manière de s'assurer que si on a des difficultés parce qu'on n'obtient pas le poste qu'on veut, on va pouvoir être soutenu par le syndicat? Ou même de manière plus large, les syndicats interviennent directement dans les évolutions de carrière pour les policiers, notamment pour les gardiens de la paix?
Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que non, concrètement, le mythe du syndicat qui place ses adhérents où ils veulent, comme ils veulent, c'est un mythe qui n'existe pas. De fait, si on a 70% de policiers syndiqués, ils ne peuvent pas tous avoir le poste qu'ils veulent. Donc, mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Pour autant, il y a une réalité de discussions, d'échanges entre l'administration et les syndicats sur les gestions des carrières. Et les syndicalistes ont tendance, naturellement et de manière assez explicite, à privilégier leurs adhérents face aux adhérents des syndicats concurrents ou aux policiers non adhérents à dossier égal. Alors, on parle souvent, parce que c'est plus facile d'en parler, des abus, mais concrètement, les syndicats ont aussi un rôle de garde-fou et ils garantissent aussi le respect d'une certaine logique dans les avancements, dans les mutations, ou dans les, voilà, que ce soit géographique ou fonctionnel. Mais on n'est pas sur le mythe de si le syndicat veut que telle personne ait tel poste, ça, ils n'ont qu'à claquer des doigts et ça fonctionne. Ça, c'est un mythe qui a pu avoir un certain fondement il y a quelques années, mais qui n'est plus vrai du tout depuis plusieurs décennies.
Et alors, une particularité des policiers, c'est par exemple qu'ils n'ont pas le droit de faire grève. Dans quelle mesure ça peut impacter leur choix de se syndiquer ou non, Marion Guénot?
Alors effectivement, ils n'ont pas le droit de faire grève. Ils ont aussi un devoir de réserve qui est très important, qui en théorie s'étend jusque dans la vie privée. On ne doit pas manquer de loyauté à l'égard de l'institution, même en parole. Et donc ça a un impact très fort sur le choix de se syndiquer. C'est-à-dire que avoir un représentant syndical, c'est avoir quelqu'un qui a un devoir de réserve atténué et qui va pouvoir s'exprimer dans les médias, qui va pouvoir porter la parole des policiers et qui va aussi, entre guillemets, ouvrir le parapluie en cas de protestation collective en organisant des choses un petit peu à la marge, c'est-à-dire les grèves du zèle, d'autres protestations collectives, et qui va protéger en fait les policiers qui, malgré tout, protestent et sont parfois à la lisière de la grève.
Et alors justement, vous parliez des syndicats, de leur présence dans les médias. Alors en parlant de syndicats, peut-être qu'on peut faire un tour sur finalement quels sont ces syndicats, peut-être avec vous, Benjamin Pabion. Combien de syndicats, disons, importants existent chez les policiers, et est-ce que finalement il y a des grosses différences entre eux?
Alors, je souris juste un petit peu au terme important, parce que je pense que certains syndicats se considéreraient très importants sans être forcément très représentatifs. Donc, je vais choisir de parler plutôt de ceux qui sont représentatifs. Concrètement, on a trois blocs dans le syndicalisme des gardiens de la paix. Deux blocs quasi égalitaires qui alternent la majorité sur les dernières élections, qui sont d'une part Alliance Police Nationale et unité SGP police qui est adhérent à FO. Ces deux blocs qui, grossièrement, en arrondissant un peu, représentent 40% des fonctionnaires de police. On a un troisième bloc qui est l'UNSA police, qui est autour de 15% selon les types de scrutins qu'on prend en compte, et qui actuellement est dans une alliance syndicale avec Alliance, justement, qui crée une majorité. On parle du bloc syndical, mais ça reste un syndicat à part entière. Donc on a vraiment ces deux blocs très 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 très, très proches en termes de poids, que sont Unité SGP Police et Alliance Police Nationale. Et puis un troisième syndicat un peu plus loin, mais qui est sur une position très stratégique de faiseur de majorité, qui est l'UNSA Police.
Alors,
et après on a une...
Allez-y.
Pardon, on a une myriade de syndicats un peu moins importants numériquement, mais qui peuvent avoir quand même une certaine importance, ne serait-ce que symbolique, qui sont adhérents du coup à d'autres confédérations qu'on retrouve au niveau de la CFDT, au niveau de la CGT, mais qui numériquement sont quand même beaucoup moins significatifs.
Moi, j'avais une question aussi sur le fonctionnement et notamment comment ça se passe, par exemple, quand on entre en école de police. Est-ce que les syndicats sont tout de suite très présents et viennent démarcher les élèves, puisque donc on se rend compte qu'en tout cas, ils ont un certain pouvoir et une position stratégique. Peut-être, Marion Guenot, comment ça se passe concrètement pour les élèves policiers, par exemple, quand ils entrent en école de police?
Alors, ils sont effectivement très présents dès l'école de police par plusieurs biais. Tout d'abord, il y a des locaux syndicaux au sein de l'école, et donc les élèves, j'ai pu l'observer, viennent dans les locaux syndicaux faire part de leurs difficultés, des conflits entre élèves, des conflits parfois avec le corps enseignant, peut-être aussi parfois développer des revendications. Et puis, donc ça, c'est pour la gestion quotidienne de l'activité syndicale. Et puis, ils sont présents au moment stratégique, donc par le biais des heures d'information syndicale, donc qui sont pour les syndicats représentatifs et qui permettent d'intervenir donc à des moments stratégiques et notamment à des moments très stratégiques, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le moment des choix des postes qui va être le moment où ils vont connaître leur affectation et donc potentiellement avoir besoin d'un logement. Et c'est là que les syndicats interviennent particulièrement.
Alors on va déjà malheureusement marquer une petite pause, une pause musicale, avant de reprendre avec la deuxième partie de ce débat, donc sur les syndicats policiers. Je vous propose d'écouter une chanson de The Clash intitulée « Police on my back ».
Yeah.
Et donc, c'était The Clash, Police on My Back, et tout de suite la suite de ce débat sur le syndicalisme policier.
Plaidoirie, l'émission de Police Justice de Radio Campus Paris, un samedi par mois sur le 93.9.
Et on revient tout de suite à l'antenne avec nos deux invités, je le rappelle, Marion Guénaud, docteur en sciences politiques, qui a beaucoup travaillé sur le syndicalisme policier à travers de nombreux articles. Avec moi également, à distance cette fois-ci, Benjamin Pabion, également docteur en sciences politiques et qui a consacré sa thèse au syndicalisme policier. Elle est intitulée, je le rappelle, « Travail de représentation et rapport aux politiques dans le syndicalisme policier ». Peut-être que pour commencer cette deuxième partie, Benjamin Pabian, je peux revenir sur quelque chose que j'ai lu. Vous avez parlé dans une interview accordée à Lefebvre Dalloz d'une forme d'adhésion assurantielle de la part des policiers lorsqu'ils adhèrent à des syndicats ou à un syndicat. Qu'est-ce que c'est que cette adhésion assurantielle ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une logique, on en parlait tout à l'heure, de dire le syndicat, il est là aussi pour protéger les fonctionnaires de police. C'est un peu cette idée de ne pas attendre d'avoir un problème pour adhérer au syndicat et être sûr qu'en cas de problème, dans la police, alors c'est une représentation des policiers qui peut se discuter, mais en tout cas qui est très présente chez les policiers, c'est de se dire on peut toujours avoir un pépin, on peut toujours soit avoir un problème qui peut être d'ordre physique, on peut être blessé, on peut être mis en cause dans des problématiques judiciaires, on peut être victime dans des problématiques judiciaires, et dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un tiers de confiance qui va nous supporter, nous orienter, nous conseiller et globalement nous défendre. Donc c'est un peu cette logique d'assurance de dire le syndicat sera là pour moi si moi je suis là pour lui aussi. Et donc on adhère à un syndicat. C'est aussi ce qui explique une certaine forme d'ancienneté dans les adhésions. On parlait tout à l'heure des carrières, donc une fois qu'un policier a eu ses avancements, il est retourné dans sa ville natale et il n'a pas d'ambition de mobilité, on constate que pour autant, il continue d'adhérer. Il n'a pas grand-chose à attendre en termes de carrière. Il a eu ce qu'il pouvait vouloir et pour autant, il reste syndiqué. Et alors c'est évidemment pas le seul levier. Il y a aussi une logique de fidélité qui peut être parfois assez forte, mais n'empêche, c'est très rassurant pour les policiers d'avoir des syndicats derrière eux, d'avoir des syndicats qui soient aussi des syndicats assez forts, parce que les syndicalistes ont une vraie compétence, ont un vrai savoir-faire et peuvent de fait intervenir dans cette logique assurantielle en cas de problème.
Et peut-être la question, on a parlé tout à l'heure un petit peu déjà des médias, on sait que les syndicats policiers sont très présents dans la sphère médiatique. Il arrive parfois qu'ils prennent des positions, en tout cas sur des questions liées au métier de policier, j'ai vu que donc, dans un article que vous avez écrit, Marion Guénaud, vous parliez de politique policière et de la manière dont parfois les syndicats peuvent permettre de mettre en place ces politiques policières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors avec plaisir. En fait, c'est... Les politiques policières, ça fait tout d'abord référence aux ressources qu'a le politique pour influencer le cours des politiques qui vont concerner la police. Et donc, ça peut être notamment l'allocation de moyens. Ça, c'est comme pour tout métier de la fonction publique. Ça peut être aussi le soutien symbolique apporté à la profession en cas de scandale. Et donc, c'est là que les syndicats policiers peuvent notamment intervenir, faire pression sur le politique pour qu'il apporte son soutien aux policiers en cas de scandale, et puis aussi pour qu'il apporte un certain nombre de moyens. Et c'est ce que je montre dans mon article, en montrant comment la protestation des policiers au sortir du confinement avait abouti progressivement à l'idée d'un Beauvau de la sécurité, ce qui était une revendication syndicale qui a été après, par la suite, acceptée par le président de la République.
Alors justement, la question de la politisation des syndicats, elle a été, en tout cas, elle a beaucoup intéressé notamment les journalistes. Il y a eu un complément sur lequel on reviendra dans quelques minutes, mais juste avant, Benjamin Pabian, j'ai vu que vous aviez écrit la chose suivante dans un de vos papiers. Malgré un rejet formel du politique, les syndicats policiers ne sont pas étanches à des formes de politisation. comment, qu'est-ce que ça veut dire, et donc est-ce qu'on peut dire que les syndicats sont, en tout cas policiers, sont politisés selon vous?
Alors il y a une nuance en tout cas terminologique qu'il faut apporter, c'est la différence entre politique et partisan. C'est-à-dire que dans mes écrits, dans mes travaux, je parle du rôle politique des syndicats, pas forcément dans une logique partisane. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à la police, à un objet qui intéresse la vie de la cité au sens large, on est très vite dans de la politique au sens large, sans forcément parler des partis politiques et des positions des partis. Ça, c'est le premier volet qui fait que c'est une position que j'assume. Les syndicats policiers sont des instances profondément politiques, au sens où, comme le disait Marion il y a quelques minutes, ils vont influer, alors parfois très directement, parfois de manière un peu plus subtile, mais ils vont influer sur les politiques policières et donc sur un objet profondément politique. Et le pendant de ça, c'est aussi ce rôle partisan qui est beaucoup plus discret, qui est parfois volontairement mis au second plan. Et pour autant, on a un nombre d'exemples assez significatifs de cadres syndicaux qui ont poursuivi leur carrière syndicale vers les partis politiques, et pour le coup vers tous les partis politiques, hein, selon les syndicats, selon les personnes. Voilà, on a des gens qui se sont retrouvés au Parti Socialiste, qui se sont retrouvés, alors si on remonte un peu dans le temps, au RPR ou à l'UMP, et c'est des tensions entre le syndical et le politique qui existent encore aujourd'hui, qu'on retrouve de manière assez large dans les différents syndicats.
Effectivement, et d'ailleurs cette question du politique et du partisan me mène à vous faire écouter cet extrait. Alors c'est un extrait du complément d'enquête qui a été fait il y a 2 à 3 ans de mémoire, consacré donc aux syndicats policiers, intitulé « Police quand les syndicats font la loi ». Et voici un extrait notamment de représentants syndicaux élus à des postes élevés, et voilà la manière dont ils parlent de leur rapport avec le ministre de l'Intérieur.
On les dit même plus fort que le ministre.
Vous savez, monsieur le ministre, un ministre, ça passe, un syndicaliste, ça reste.
Si tu veux, demain, moi, je mets 1000, 2000, 10 000 flics dans la rue, ça te va, ça t'intéresse, ça?
Et je crois même de mémoire lui avoir ajouté, la différence entre vous et moi, c'est vous êtes nommé, moi je suis élu.
Vous êtes nommé, moi je suis élu. Qu'est-ce que ça dit du lien, du peut-être rapport de force qui existe entre les syndicats policiers et le ministre de l'Intérieur, Marion Guenot?
Alors, c'est rigolo de retrouver, par le biais médiatique, des personnes que l'on a côtoyées dans le cadre de ces enquêtes. Il ne faut pas oublier qu'on est là aussi dans, l'affichage d'une puissance. Et donc, les syndicalistes ont aussi tout intérêt à montrer qu'ils sont en mesure de faire pression sur les ministres. Il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de slogan, je dirais. Et puis, il ne faut pas oublier que les syndicats ne sont pas aussi tout-puissants qu'ils voudraient parfois le mettre en avant, dans la mesure où il y a aussi un certain nombre de chantiers syndicaux et de revendications anciennes qui n'ont pas abouti. La loi pour la sécurité globale, l'article 24, les lourdeurs bureaucratiques du métier policier, etc., etc.
Benjamin Pabion, sur la question du lien entre les syndicats et le ministre de l'Intérieur, certains disent finalement que les syndicats auraient le droit de vie ou de mort sur le ministre de l'Intérieur. Quelle est votre réaction ?
Alors, je rejoins ce que vient de dire Marion. C'est beaucoup de l'affichage. Effectivement, les syndicats ont tout intérêt à maintenir cette image de toute puissance. Mais oui, pour moi, c'est quand même vraiment plus une image qu'autre chose. Et en même temps, on sait que dans les nominations au poste ministériel, selon les majorités gouvernementales, selon les présidents aussi, on va chercher plus ou moins d'apaisement, et donc on va plus ou moins aller chercher des gens qui peuvent recueillir l'assentiment des syndicats policiers. Alors, en même temps que je le dis, c'est les syndicats policiers, mais c'est globalement les policiers. Mettre un ministre de l'Intérieur qui est... alors, je vais mettre des labels qui sont les labels des... partisans pour le coup, qui ne sont pas forcément les miens, mais mettre un ministre anti-police, avec tous les guillemets que ça mérite, ça peut être un choix politique fort, mais c'est s'assurer des frictions dans l'administration. Donc, oui, les syndicats policiers ont un poids ou un avis qu'ils peuvent donner. Pour autant, c'est le côté faiseur de roi me semble un petit peu exagéré.
D'accord. On a malheureusement plus que quelques minutes, même moins une minute. Est-ce que, comme dernière question, je peux vous demander votre avis sur l'avenir peut-être des syndicats policiers ? Vont-ils continuer ? Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on s'attendait à ce que ça baisse un peu. Finalement, c'est stable. Quel avenir ont aujourd'hui les syndicats policiers, Marion Guenot ?
Je pense que c'est un syndicalisme très, très vivace et qu'on va vers une accentuation, je pense, des tensions à l'image de la société.
Benjamin Pablion, vous êtes d'accord sur l'accentuation des tensions ?
Alors, sur l'accentuation des tensions, oui, sur le rôle des syndicats que dans cette gestion des tensions, je suis très curieux pour être honnête, à la fois pour des raisons légales, réglementaires, avec des évolutions statutaires très récentes, notamment sur les gestions des carrières dont on parlait tout à l'heure, et sur l'émergence, un peu difficile, mais émergence quand même, de mouvements parasyndicaux, plutôt associatifs, qui essayent aussi de se faire une place dans ce microcosme policier. Donc, beaucoup de curiosité sur ce point.
D'accord, eh bien, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été là pour discuter donc, des syndicats policiers. Je le rappelle, Marion Guenot, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez beaucoup travaillé donc, sur la question des syndicats policiers. Même chose pour vous, Benjamin Pabion. Vous êtes également docteur en sciences politiques et vous avez donc écrit une thèse intitulée « Travail de représentation et rapport aux politiques dans le syndicalisme policier ». C'était donc la thématique de cette émission. Merci à Fabrice qui a fait la réalisation et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous écouter. Si vous voulez écouter ce podcast en replay, vous pouvez le faire sur notamment le site de Radio Campus Paris. Et en attendant, eh bien, moi je vous dis à la prochaine fois, dans un mois tout pile. En attendant, eh bien, prenez soin de vous. Merci à tous.